au positif,
le dossier.
Nous recevons le docteur Catherine Gillin, neurologue, spécialiste en réadaptation fonctionnelle. Je vous rappelle que la semaine passée, nous vous avions parlé de systèmes embarqués dans les voitures et notamment d'une invention qui avait été réalisée chez nous à Liège concernant la somnolence. Tous ces systèmes embarqués afin de combattre ces épisodes de somnolence une fois que vous êtes en voiture. Et nous en avions profité pour dire deux mots sur la somnolence. Je vous avais promis qu'on reviendrait sur ce phénomène un peu particulier. Et c'est le cas avec le docteur Gillin. Alors, je le disais lors de cette émission, mais sans véritablement pouvoir l'expliquer, vous allez sans doute pouvoir nous éclairer. La somnolence et la fatigue, c'est pas la même chose. C'est quoi en fait la différence? Ça paraît très subtil quand même.
Effectivement, ça paraît subtil. Comment différencier une fatigue d'ailleurs dont tout le monde se plaint dans une vie hyperactive comme nous avons, et la somnolence? La fatigue, c'est vraiment une sensation de malaise ou de lassitude, mais sans nécessité de dormir. Tandis que la somnolence, dans somnolence on entend l'étymologie du mot sommeil, c'est un besoin de dormir, et si on n'est pas stimulé activement, on finit par s'endormir. Quand on enregistre les électroencéphalogrammes chez des gens en somnolence, ils sont déjà en stade 1 de sommeil. Je vous rappelle, il y a 5 stades, et le premier stade d'endormissement, c'est le stade 1. Et donc, c'est vraiment une diminution de l'éveil physiologique ou de la vigilance. Contrairement à une fatigue où vous restez présent, vous restez éveillé, mais vous vous sentez mal.
Et on voit véritablement sur les graphiques cet épisode de somnolence apparaître, qui est très particulier.
Il est particulier parce qu'effectivement, on voit vraiment comme si le sommeil allait s'enclencher. Et quand on fait différents tests, que ce soit par des tests itératifs d'endormissement ou que ce soit par la polysomnographie ou ce qu'on appelle les actimétries où on mesure la motricité des patients, ou d'autres tests par exemple où il s'agit de cliquer systématiquement lors d'un bruit et puis qu'il y a des pauses qui peuvent durer longtemps, on voit qu'il y a des micro-endormissements répétés. Alors c'est vrai que cet endormissement n'est pas forcément prolongé. Donc, même le patient lui-même n'en a pas toujours conscience. Mais ça peut être des micro-endormissements, mais qui sont significatifs. Donc, la somnolence est vraiment un état pathologique, sauf que nous avons tous deux moments de somnolence physiologique qui est en début de matinée et en début d'après-midi. Donc si on enregistre notre électroencéphalogramme, on serait prêt à, si on pouvait, se mettre au repos.
On n'a pas tous des micro-épisodes.
Ça ne va pas jusque-là. Nous sommes suffisamment actifs.
Ouais. Il y a des, alors c'est ça qui est particulier, c'est qu'on ne s'en rend pas compte de cette somnolence lorsqu'on vit cet épisode.
On peut s'en rendre compte, mais on ne se rend pas compte spécialement qu'on s'endort réellement.
Non, c'est ça.
Mais on ressent le malaise, on ressent la lassitude, les périodes vraiment où on perd un peu contact avec l'environnement, et puis hop, quelqu'un ou quelque chose ou un bruit ou vous-même, une espèce de petit gendarme interne vous réveille en sursaut et vous recommencez. Mais il y a des gens aussi qui s'endorment réellement.
Oui, et là, ça devient évidemment problématique en fonction de l'endroit où vous êtes et ce que vous faites à ce moment-là. Bien sûr, j'allais dire qu'on peut faire la comparaison en ce moment où vous êtes en train de lire dans votre lit et vous avez l'impression à un moment donné d'avoir sauté de ligne.
Absolument.
C'est des petits épisodes.
Absolument, c'est tout à fait ça.
Que l'on connaît.
Tout à fait ça, oui.
Parce que l'œil semble continuer à poursuivre sa ligne, mais vous n'êtes plus là. Les mots n'entrent plus. Alors, la somnolence, on l'a dit et on a eu beaucoup de témoignages d'ailleurs à ce sujet. De personnes qui nous disaient la somnolence peut être un élément qui nous met en garde contre des pathologies, mais ce n'est pas toujours le cas. On distingue la somnolence physiologique et la somnolence pathologique, justement. La somnolence physiologique, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un peu tout ce que l'on ressent.
C'est ce que l'on ressent, et puis c'est ce que l'on a aussi lorsqu'on est en dette de sommeil. Si vous avez mal dormi et que votre dette de sommeil s'accumule, c'est vous ça. Pouvez alors avoir de façon physiologique des petits moments de sommeil qui seraient en fait réparateur, ou bien également il y a des gens qui ont une sensibilité particulière après des repas un peu lourds.
Oui.
Donc là, c'est assez physiologique, il y a des explications simples. On tombe dans la somnolence pathologique lorsque cela résulte vraiment d'une altération de la qualité du sommeil de récupération, ou bien de la prise de substances qui une baisse de la vigilance, comme on peut l'avoir avec certains médicaments ou avec l'alcool.
Le fait que ça puisse devenir un élément qui devrait un peu éveiller l'attention de la personne qui en souffre de somnolence. On avait notamment un témoignage d'une personne qui nous disait moi, on a découvert, du fait que je faisais beaucoup d'épisodes de somnolence et que je m'en suis rendu compte, j'ai consulté et finalement on a découvert que je faisais de la narcolepsie. Donc voilà, si c'est de temps en temps, ok, ça fait partie un peu de notre vie aussi. Si ça devient trop répété, il vaut mieux quand même consulter dans ce cas-là.
Exactement. Si vous avez un symptôme qui est récurrent, malgré même parfois des efforts, où vous dites, tiens, c'est vrai que le narcoleptique, il a beau se dire, je vais essayer d'aller bien dormir. On sait, c'est une maladie génétique, mais on sait que la qualité du sommeil des narcoleptiques n'y est pas parce qu'ils n'ont pas tous les cycles bien représentés. Mmh. Et de façon typique, en journée, ils ont des périodes de somnolence avec des endormissements qui peuvent être courts ou longs. Ils ont une altération de la vigilance qui est très nette. Ils ont parfois un peu des troubles du comportement d'ailleurs à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir chez certains d'entre eux même des chutes. Ils peuvent s'endormir debout, entre guillemets, oui, avec chutes qui sont assez typiques de la maladie. Et il faut impérativement la traiter. C'est évidemment tout à fait dangereux, et notamment dans une société où la plupart des gens conduisent des voitures.
Il faut évidemment être attentif à son sommeil, ce qui nous donne l'occasion de revenir sur ces fondamentaux du sommeil, sommeil que nous ne respectons pas suffisamment et que la société ne pousse pas vraiment non plus à respecter. On en reparle avec vous, docteur Gillin, dans quelques instants. Reprendre certains de nos témoignages. Alors globalement, les gens qui témoignent pour le moment ne dorment pas bien. Si on pouvait aussi avoir des témoignages de gens qui dorment bien, ce ne serait pas plus mal non plus. Alexis, par exemple, il a 60 ans. Il lutte depuis 60 ans pour rester éveillé, lui. Alexis arrive à gérer son réveil et son sommeil. Il dort quand il ne fait plus l'effort de rester éveillé. C'est vrai qu'il faut accepter qu'à un moment donné, notre sommeil a besoin de s'installer et que notre corps réclame cette période. On en parle dans quelques instants.
Au positif sur la première. Au positif de 11h à midi sur la première.
Nous parlons des fondamentaux du sommeil avec le docteur Catherine Gillin et votre concours. Alors je reprends quand même le message d'Alexis qui lui lutte pour rester éveillé et puis il dort quand il ne fait plus l'effort de rester éveillé. Et je disais, il faut respecter sa qualité de sommeil et son moment de sommeil aussi. Et vous me dites, oui, mais s'il y en a trop, alors pas assez, c'est pas bien, mais trop, ça
c'est
peut
pas
être
bien non plus.
C'est pas bien non plus.
Non, tout à fait. En fait, on faut un juste équilibre dans le cycle veille-sommeil.
Ouais.
Vraiment. Et quand vous disiez que notre société a vraiment perdu la notion de la qualité du sommeil, c'est malheureusement très très vrai. Et je vous rappelle que depuis l'avènement de l'électricité, donc il y a une bonne centaine d'années, l'être humain a déjà perdu 2 heures de sommeil, ce qui, sur son évolution physiologique, est absolument considérable et qui doit constituer un véritable traumatisme pour notre cerveau d'ailleurs. Oui. Et je pense que le message le plus important à faire passer aujourd'hui, c'est de se rappeler que nous sommes des êtres biologiques, que dans ce fonctionnement biologique, nous avons une horloge biologique qui est un cycle de 24 heures, 24 heures 20 en fait, c'est-à-dire que nous avons des fonctions particulières à des moments particuliers de ce déroulement de 24 heures. Nous n'avons pas le même fonctionnement en permanence, loin s'en faut. Et ça, c'est tant au niveau des sécrétions hormonales que l'activité cérébrale, que du cœur, etc. etc. Et retrouver vraiment une adhésion à notre cycle biologique, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse se faire à soi-même.
Et ce n'est pas anodin non plus que l'on ait parfois la sensation de devoir dormir plus dans des périodes hivernales comme celle-ci.
Absolument.
Que dans les périodes estivales, puisque nous nous adaptons en fait à ce taux de lumière diminué que nous recevons en période hivernale.
Alors théoriquement, on devrait dormir plus l'hiver et moins l'été. Et je vous rappelle que si en fait on a des vacances plutôt l'été, c'est à cause du fait que il y a quelques longues années, on utilisait les enfants pour aider à la collecte dans les champs. Et c'est comme ça qu'on a mis les congés scolaires en fait l'été et que malheureusement on a inversé. On devrait faire l'inverse.
On devrait avoir des congés scolaires.
On devrait avoir des congés si on veut respecter. Ouais. Maintenant, personne ne va n'avoir envie de prendre ses vacances, sauf si on peut aller loin au soleil évidemment. Mais pour respecter les cycles naturels, effectivement, on devrait plus travailler l'été et moins l'hiver. Et en tout cas, c'est vrai qu'on doit assumer de dormir un peu plus l'hiver que l'été.
Mmh. On a reçu de nombreux témoignages. Par exemple, celui de Claudine a eu un très mauvais sommeil durant des années suite à une grave dépression. Claudine avait entendu le docteur Gillin, donc vous, dans l'émission précédente. Elle l'a consulté et a récupéré sa qualité de sommeil, ses cycles, et elle rêve à nouveau, nous dit-elle. Oui, la qualité du sommeil, ça passe aussi par des moments de rêve, bien bien sûr. On parle aussi beaucoup de sommeil réparateur ou de sommeil non réparateur. Ce terme, il n'est pas galvaudé non plus.
Non.
Parce que le sommeil est véritablement réparateur. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas en activité du tout, hein, d'ailleurs, pendant le sommeil.
Alors, je vous avoue que j'ose dire qu'en fait, c'est au niveau biologique,
oui,
le moment le plus important de notre vie, oui, c'est le sommeil. La journée, on ne fait jamais qu'utiliser tout ce que le corps a réparé et préparé pour vivre cette journée convenablement.
Oui.
La journée, nous sommes conscients, nous sommes actifs, nous avons envie de réaliser des choses, mais toute la base physiologique qui nous permet de les réaliser, nous l'avons préparée la nuit. Donc la qualité de notre sommeil est absolument fondamentale. Je vous rappelle, on en avait parlé un petit peu, mais très brièvement, que c'est d'une part durant la nuit que vous faites toutes les réparations cellulaires et les protéines cérébrales. C'est durant la nuit que vous inscrivez dans votre mémoire tout ce que vous avez fait, votre biographie et tout ce que vous avez appris.
Mmh.
C'est aussi la nuit que vous allez régulariser toutes les sécrétions hormonales pour les 24 heures qui viennent. C'est la nuit que vous avez vraiment des grandes réparations de cet ordre-là. C'est absolument fondamental. Alors un sommeil réparateur, c'est quoi? C'est pas un nombre d'heures, c'est une qualité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous égaux en termes de nombre d'heures de sommeil. Et donc, si vous vous réveillez si possible, spontanément. Hein. Mmh. Le réveil n'est pas quelque chose de très sympathique. Ou alors apprendre à le mettre vraiment en fin de cycle. Si vous vous réveillez spontanément et que vous vous sentez frais, alors votre sommeil est récupérateur.
Mmh. J'ai une phrase qui revient souvent parce qu'elle me vient de ma maman. C'est vrai que je la répète à mes enfants, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais je leur dis souvent, quand ils sont malades, enrhumés ou peu importe, dors bien pendant la nuit parce que c'est là que ton corps va se battre.
Oui.
C'est aussi...
L'immunité travaille énormément durant la nuit.
Mmh.
C'est vraiment le travail fondamental se passe durant notre sommeil. C'est tout à fait exact.
Mmh. Donc c'est véritablement une période importante. Mais la période du sommeil est variable en fonction de notre vie. Les enfants ont un rythme particulier, les adultes aussi. Et plus on prend de l'âge, et ce rythme change et varie encore. Mmh. On parlait des enfants avec Jean-Claude tout à l'heure qui disait qu'il faut vraiment rappeler l'importance d'une bonne nuit de sommeil pour
fondamental.
Les enfants.
Le sommeil évolue avec la vie, avec l'âge. Effectivement, il évolue non seulement en durée, mais aussi en proportion des différents cycles. Et on suit ça très bien en faisant maintenant toutes les polysomnographies. Donc je vous rappelle, c'est des enregistrements électroencéphalographiques du sommeil durant toute une nuit, avec enregistrement cardiaque, respiratoire, etc. Et c'est vrai que malheureusement, la qualité du sommeil diminue avec l'âge. On a beaucoup moins de sommeil récupérateur, on a beaucoup moins de sommeil lent profond, on a une moins bonne sécrétion de l'hormone du sommeil, la mélatonine.
Mmh.
Maintenant, pour parler de l'enfant, c'est absolument fondamental parce que chez l'enfant, donc l'enfant entre guillemets, jusqu'à 18-20 ans,
ah
donc
oui,
même le grand enfant, mais certainement les 10 premières années, le sommeil est le moment de construction du cerveau. Donc il faut bien comprendre ça, qu'il y a encore toute une plasticité cérébrale qui est absolument fondamentale, la circuiterie si vous voulez. Tout ce que vous apprenez à votre enfant, que ce soit les comportements sociaux, que ce soit les apprentissages scolaires, tout ça va s'inscrire durant le sommeil lent profond de la nuit et surtout le premier sommeil lent profond.
Oui.
Donc c'est une période absolument fondamentale. Et preuve en est, on en avait parlé à un moment donné, ce sont certaines maladies où il y a destruction de ce sommeil lent profond, les épilepsies cognitives,
oui,
du sommeil, et où l'on voit vraiment une déstructuration de la qualité d'apprentissage de l'enfant qui peut mener jusqu'à la psychose et jusqu'à l'autisme.
Mmh.
Donc c'est un moment absolument fondamental. Il faut apprendre à l'enfant à aimer le sommeil, à respecter le sommeil. Il faut apprendre aux parents aussi à respecter parce qu'ils ont tendance à l'oublier eux-mêmes. Et c'est surtout... Et c'est vrai, votre grand-mère disait cette chose que vous avez dit, et les grand-mères disent aussi les heures avant minuit comptent double. C'est tout à fait vrai parce qu'il y a un sommeil lent profond qui est particulièrement bien représenté à ce moment-là. Donc il faut respecter des heures de sommeil suffisantes et tôt à nos gosses.
Au fond, c'est un peu le cerveau d'un enfant comme une maison qu'on construit et ces fameuses connexions et toutes ces choses qui se mettent en place pendant la nuit, qui se construisent, c'est un peu comme si vous aviez une plomberie et qu'il y a encore des tuyaux qui ne sont pas reliés.
Tout à fait.
Et jusqu'à 18 ans, ces tuyaux vont commencer à se
relier. Les tuyaux, la circuiterie électrique, le chauffage, tout.
Ouais.
Tout vraiment la finesse qui va faire que vous aurez une maison parfaite et de très bon fonctionnement se construit uniquement durant la nuit. La journée, on prépare, si vous voulez, on met fichier enregistré en attente et c'est la nuit que ça s'enregistre. Donc c'est absolument fondamental.
La société ne s'est pas réveillée un jour en se disant « je vais empêcher les gens de dormir ou d'avoir une bonne qualité de sommeil ». Nous sommes en grande partie responsables de cela et ça passe par des petites choses parfois que nous faisons au quotidien et que nous ne devrions peut-être pas faire ou alors avec beaucoup d'attention. Et ça se passe chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les adultes. On en parle juste après ceci.
Au positif. Le dossier.
Avec le docteur Catherine Gillin qui est avec nous bien sûr, spécialiste en réadaptation fonctionnelle, neurologue. On parle de ce sommeil. Liliane a écrit sur notre page Facebook pour nous dire, vous cherchez des patients qui ont une bonne qualité de sommeil. Je peux vous assurer que cela existe, j'en fais partie. J'ai la chance d'avoir un sommeil très réparateur. Une bonne nuit me suffit pour récupérer d'une grosse fatigue, voire d'une nuit blanche. Mon arsenal consiste en 2 points, un mode de vie aussi sain que possible. Par exemple, je suis végétarienne, je fais du sport régulièrement, 5 heures au moins par semaine, mais sans forcer, de la natation, du vélo, de la marche. J'ai une lampe magique en permanence sur mon bureau qui m'apporte la qualité de luxe indispensable à un bon état d'éveil et une bonne séparation entre le jour et la nuit. C'est vrai que là, on a déjà un bon programme pour se préparer à une bonne semaine, à condition de ne pas faire le sport avant de dormir. Hein. Ça, je m'en souviens par contre.
Oui, bon, c'est sûr que cette dame met toutes les chances de son côté, mais je pense qu'a priori, la nature l'a dotée quand même d'une bonne qualité de sommeil, parce qu'il y a des gens qui font le même effort et qui n'y arrivent pas. Ouais. Maintenant, ça a du sens, effectivement, de bien faire pour le cerveau. Finalement, cette horloge biologique dont je vous parlais, elle a comme indicateur de temps principal la lumière, ça c'est tout à fait exact, et puis après viennent les heures de repas et les activités physiques. Alors, utiliser une luminothérapie sur pas n'importe laquelle, entre parenthèses, mais enfin bon, mais essentiellement le matin, pas plus de 20 minutes, et éventuellement encore 10 minutes l'après-midi. Trop, c'est toxique, hein, il ne faut pas non plus se shooter. L'avantage de la luminothérapie, c'est vraiment bien d'inscrire le début de l'horloge biologique, et on a une meilleure sécrétion de mélatonine le soir aussi en réaction, donc il y a vraiment du positif à le faire, ça c'est exact. L'activité sportive, sûrement, nous sommes des animaux, je vous le rappelle, on a besoin de bouger, donc c'est très très bon pour le corps. Maintenant, il y a effectivement des heures meilleures. Pourquoi ? Parce que si on fait une activité physique intense trop proche du sommeil, on a une température corporelle qui est trop élevée et un taux de cortisol qui peut rester trop élevé. Donc, si c'est intense, pas après 17 heures. Par contre, la promenade du soir qui détende, oui, sûrement.
La première chose, je dirais le premier élément qu'on peut donner aux personnes qui veulent avoir une bonne qualité de sommeil, c'est aussi d'écouter son propre corps, d'être véritablement à l'écoute. Parce qu'on n'est pas tous égaux. Certains, on l'a déjà dit aussi, il y a des grands dormeurs, des petits dormeurs.
Absolument.
Il faut donc vraiment être à l'écoute de son propre corps et perdre certaines mauvaises habitudes. La première mauvaise habitude, c'est les médicaments.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire que c'est un peu... C'est vrai qu'on est une société un peu... j'ai un problème, j'ai une solution tout de suite, le tout ou rien. Et malheureusement, les médicaments... Bon, je ne veux pas les bannir, ils peuvent avoir du sens. Associé à une prise de conscience justement d'un comportement de mise au lit adéquat, c'est-à-dire préparer sa soirée, préparer un rythme assez régulier, écouter son train de sommeil, ces épisodes de somnolence justement, pour revenir à ça, que nous avons tous en soirée et qui sont des débuts de cycle de sommeil, et être au lit pour un train de sommeil, c'est-à-dire être sur le quai de la gare avant que le train se déclenche, ça c'est l'idéal. Les médicaments peuvent avoir un sens pour aider la personne à réenclencher ce train de sommeil régulier. Mais pas n'importe lesquels, parce qu'il y a malheureusement des médicaments pièges, dont la classe des benzodiazépines, qui favorisent cet endormissement. Donc on a l'impression qu'on dort bien, qu'on s'est endormi vite, mais qui coupent le sommeil lent profond. Donc il n'y a pas vraiment de récupération au sens physiologique dont je vous parlais. Et en plus, ils ont ce qu'on appelle une demi-vie, donc une durée d'action dans le corps qui est assez longue, même plusieurs jours pour certains. Donc on peut avoir une accumulation aussi si quelqu'un a par exemple des problèmes au niveau rénal, une mauvaise, ou au niveau hépatique, une mauvaise élimination. Et donc l'accumulation de ces médicaments provoque de la somnolence diurne et donc d'ailleurs beaucoup d'accidents de la route et d'accidents du travail. Et donc un médicament ne devrait jamais être pris à long terme. Il doit être pris le temps nécessaire en prenant conscience de comment il faut faire et puis s'en passer. Mais certainement pas à long terme, certainement pas le geste automatique et certainement pas renouveler une prescription sans se poser des questions.
Puis il y a aussi les effets secondaires de médicaments qui eux ne sont pas forcément destinés pour le sommeil.
Tout à fait. Mais
dans lesquels on peut retrouver parmi les effets secondaires soit des perturbations du sommeil, soit des effets de somnolence. Alors on peut se dire, c'est décrit dans quasiment toutes les notices, donc c'est plutôt une mesure que les pharmacies ou plutôt les sociétés pharmaceutiques prennent pour se prémunir d'eux. Mais en réalité, la plupart d'entre eux ont effectivement des répercussions sur le sommeil.
Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de médicaments qui peuvent agir sur la vigilance dans un sens comme dans l'autre, qui peuvent être réveillants ou excitants. Oui. La première chose est d'en parler au patient et de lui demander d'être attentif. Et de, à ce moment-là, décider que le patient prenne plutôt le matin que le soir. On voit beaucoup ça avec les antidépresseurs. Il y a des antidépresseurs dits incisifs qui vont être un peu excitants, qu'il faut impérativement donner le matin, et d'autres qui vont être sédatifs, qu'il faut impérativement donner le soir. Donc là, il faut faire attention. Maintenant, il y a des gens qui ont un métabolisme qui n'est pas le même que les autres, ce qu'on appelle les métaboliseurs rapides. Il y a des gens qui métabolisent très très vite et qui auront plutôt besoin qu'on fasse l'inverse. Oui. Donc, à contrario, il y a des métaboliseurs lents. Et puis, il y a effectivement cet effet secondaire dans des médicaments qui sont indispensables. Donc, c'est quelque chose à gérer, très attentif. Et c'est vrai qu'en étant particulièrement, en expliquant aux patients d'être attentifs et qu'il nous donne un retour après quelques semaines, on peut le guider là-dedans. Maintenant, il y a aussi des médicaments avec lesquels on doit leur dire de ne plus conduire.
Si nous avons pris, pour la plupart en tout cas, conscience de l'importance de l'alimentation aussi en tant qu'adulte sur la manière dont nous allons dormir, ce n'est pas toujours le cas chez les jeunes, voire les adolescents. Et on ne parle pas uniquement de nourriture solide, on parle aussi de nourriture liquide. Beaucoup d'adolescents aujourd'hui consomment des boissons énergisantes, le font en se disant « je ne vais pas le faire le soir parce que… » ou alors parce que je sors, mais « je ne vais pas faire le soir parce que je sais que c'est un excitant, je le fais dans la journée », mais ne se rendent pas compte à quel poids aussi sur l'organisme, cela peut influer à très long terme.
Absolument.
Et pas de la manière dont il l'aurait voulu.
Absolument, c'est aussi une espèce de piège boomerang hein, qu'on peut avoir comme avec certains médicaments. Ça entraîne une modification vraiment de l'activité neuronale et puis une certaine accumulation aussi. Donc on peut avoir des altérations du sommeil, des altérations de la vigilance la journée, des troubles du comportement, des troubles de la mémoire, de l'attention. Pas mal de répercussions négatives, c'est comme pour tout le reste, un peu de temps en temps, pourquoi pas, mais certainement pas systématique.
On a un témoignage qui nous est arrivé, celui de Julie, qui nous parle de sa fille de 14 ans et demi, qui a de très grandes difficultés à s'endormir, à rester endormie durant la nuit. Elle est de nature un peu anxieuse, se pose mille questions sur sa vie, son avenir, en se mettant au lit. Nous lui avons conseillé de lire un peu pour se changer les idées, pouvoir s'endormir plus sereinement, mais elle adore la lecture et est capable de lire pendant des heures. Je lui ai fait faire des séances de relaxation qui ont été efficaces pendant une heure, mais elle finit tout de même par se relever. De jour en jour, je vois ses cernes se creuser et je ne sais plus quoi faire pour l'apaiser. Alors la question ici, docteur Gillin, n'est pas de répondre et de donner un diagnostic, mais bien peut-être de susciter chez toutes les personnes qui, comme Julie, rencontrent ce type de problématique avec leurs adolescents, de ne pas hésiter à consulter parce que ce sommeil est tellement important qu'effectivement, s'il y a des perturbations, autant essayer de déterminer quelles sont ces perturbations, qu'elles ne sont pas d'ailleurs toujours liées à la vie quotidienne.
Oui, mais dans le cas justement des patients qui ruminent la nuit, les anxieux comme cette jeune fille qu'on a tout à fait chez des adultes également, c'est souvent le problème que la journée, on ne prend pas la peine d'aborder justement ces situations anxiogènes et d'y réfléchir. Comme votre conscient prend le dessus et met de côté tout ce qui peut vous tracasser, dès que votre conscient lâche un peu parce que vous allez vous endormir, hop, l'inconscient vous rappelle que vous avez ça.
J'imagine que c'est encore plus présent chez les ados, justement, qui sont en construction de ces personnes, de ces personnalités.
Oui, sans doute, sûrement, mais sincèrement, on le voit pas mal chez l'adulte aussi.
Ah oui, aussi.
Et donc, en fait, la première chose à faire, c'est de se donner un espace-temps en journée pour aborder les choses anxiogènes, pour en discuter, pour voir ce qu'on peut en faire. Éventuellement, si nécessaire, consulter en psychothérapie. C'est souvent par ce biais-là qu'on parvient à libérer l'inconscient de cette charge non résolue et qu'effectivement, on pourra plus facilement s'endormir la nuit. En ayant évidemment tout un coaching au niveau comportement de mise au lit, ça je suis tout à fait d'accord. Mais certainement pas tomber dans le piège de lui donner un anxiolytique pour aller dormir, ça ne va absolument rien résoudre.
Docteur Gillien, malheureusement, on doit déjà s'arrêter, mais on vous retrouvera, hein, c'est promis, hein, dans l'émission. On parlera de différentes pathologies liées au sommeil, bien sûr, mais surtout, et pas uniquement d'ailleurs, on parlera également, pourquoi pas de Parkinson, on l'avait évoqué tout à l'heure, d'Alzheimer et bien d'autres choses en votre compagnie. Merci d'être venu nous rejoindre
Merci
aujourd'hui.
À vous.
Je vous emmène au cinéma dans un instant, puisque mercredi sortira en salle La Nuit qu'on suppose.